Bon mardi à tous de vous écouter Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Ici Noémie, votre animatrice. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première émission de la semaine de Chérie J'arrive. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On commence l'émission d'aujourd'hui avec mes collègues de Impact Campus, Fred et Amy, qui viennent nous parler de leur expérience au Festival de théâtre de l'Université Laval qui a eu lieu ce week-end. Par la suite, à 16h30, on parle jeu vidéo plus présent de Baldur's Gate 3 avec votre chroniqueur jeu vidéo Julien Richard. Et par la suite, à 17h, je reviens en fait sur le spectacle Danseurs du ciel présenté au Diamant la semaine dernière. Et on parle aussi des prochains spectacles de la Rotonde, en plus de jouer une tonne de nouveautés. Donc, avec moi en studio, j'ai Fred. Salut, salut.
Allô.
Et à l'autre bout du fil, Amy. Salut, salut.
Allô.
Yes. Alors, vous êtes ici, mes chers collègues médias de l'Université Laval, pour parler du Festival de théâtre de l'Université Laval. Fred, peux-tu nous dire quelques mots sur ce Festival de théâtre qui se passe ici?
Dans le fond, c'est la 10e édition, justement, du Festival de théâtre de l'Université Laval. Moi, en 6 ans d'université, c'était la première fois que j'y assistais. Fait que c'était vraiment une première. Ça se déroulait donc du 19 au 24 mars dernier, donc jusqu'à dimanche, dans le cadre de la Semaine de la Francophonie 2024. Cette année, la thématique, donc, c'était « Au rythme de nous ». Pour eux, c'était une manière de mettre de l'avant une programmation qui rend hommage à la collectivité et à son mouvement perpétuel, donc pour reprendre leurs mots. Il y avait plusieurs types de propositions là, durant le festival qui étaient, je dirais, porté par une passion là, vraiment pour les arts multidisciplinaires. Il y avait des trucs qui étaient achevés ou encore en construction. C'était des mises en lecture, des sorties de laboratoire. Il y avait des perfos, des spectacles. Il y a même eu des ateliers, fait que comme d'improvisation par le mouvement, des ateliers d'écriture littéraire, des conférences. Fait que c'était quand même assez varié. Puis ce que j'ai bien aimé aussi du festival, c'est que c'était proposé quand même à des prix abordables. D'autant plus que c'est un festival qui est beaucoup fait par des étudiants. Fait que c'est quand même assez chouette que ben ça leur soit aussi accessible parce que veux pas, ça constitue quand même le public je pense aussi du festival.
Puis ça se passait, oui, à l'Université Laval, mais ça se passait aussi dans différents lieux de la ville de Québec. Je pense à la Charpente des Fauves.
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'était soit à la Charpente ou à l'Antis, dans le fond, qui est au pavillon Caso sur le campus. Donc, c'était vraiment dans ces deux lieux-là là, que le festival avait lieu.
Et toi, Amy, je suis curieuse. Est-ce que c'était ta première expérience au Festival de théâtre de l'Université Laval?
Oui, c'est ma première expérience. Je suis juste allée voir, moi, je suis allée voir, en fait, la soirée de fermeture qui était en partie à la Charpente des Fauves. Donc, c'est la seule représentation à laquelle j'ai assisté, mais c'était ma première expérience.
Bien, on va commencer avec Fred. Tu es allée voir le spectacle Mémoire de Lune.
Oui, c'est ça. Je suis allée, c'était vendredi soir à l'Antis, justement, pour vous mettre un petit peu en contexte. Donc, Mémoire de Lune, c'est un collage des pièces. Donc, La jeune fille et la lune et Au cœur des queneux, donc de Claude Gauvreau. C'était, dans le fond, un projet. Le projet, ça dit que c'est une étude sur l'interaction des différentes techniques et des différents médias afin d'obtenir des dramaturgies plurielles. Fait que vraiment, je pense qu'on l'a quand même vu. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'avais pas lu le synopsis, en fait, j'avais rien lu avant d'y aller, fait que j'avais comme aucune attente. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, puis je pense que je m'attendais à un spectacle comme très traditionnel là, quand on va au théâtre, là, où t'as comme vraiment une pièce avec genre des personnages, un début, un milieu, une fin, en tout cas, bref, il y a quelque chose qui suit, puis finalement, c'était pas ça, puis ça m'a un peu prise par surprise, mais d'une bonne manière, en fait.
Qu'est-ce qui est différent d'un spectacle de dramaturgie plus conventionnel, entre guillemets?
Ouais, je pense que d'abord la longueur, parce que en tout cas, moi, ça fait une couple de fois que je vais voir des trucs. Puis des fois, c'est long. Puis je dis pas que c'est long négativement, mais tu sais, il y a des productions, peu importe là, où à Québec, souvent, ouais, je pense que ça se fait comme dans la durée, alors que là, ça a duré tout au plus 30 minutes. Là.
OK.
Ouais, gros max. Fait que quand ça a fini, j'étais comme, ah, OK, c'est le moment pour applaudir. Là. on applaudit. Mais en même temps, je pense que ça se portait bien parce que c'était vraiment poétique. Fait que c'était pas comme, comment dire, ouais, des dialogues conventionnels. C'était vraiment ouais, un peu plus de la poésie avec, pendant ce temps-là, des trucs qui se passaient justement au niveau de la mise en scène. Puis je pense que si ça avait été plus long, puis dans l'article que j'ai rédigé, notamment avec notre collaboratrice Juliane Campeau, on la salue, qui est allée voir genre 6 productions. Ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, si ça avait été plus long, je pense que ça aurait été trop long parce que quand c'est des trucs qui sont ultra poétiques comme ça, mm-hmm. j'ai l'impression que ça peut être facile de décrocher si c'est vraiment long parce qu'à un moment donné, t'es comme plus dedans. Peut-être que c'est un bon signe parce que tu te laisses comme porter par qu'est-ce qu'il y a sans être super focus, je suppose. Mais ouais, fait que moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Puis ça m'a beaucoup fait penser au Fou de Bassan d'Anne Hébert parce que ça abordait notamment l'espèce de passage vers la mort. Il parle aussi du retour du corps à la nature, la mémoire. Fait que, ouais, ça m'a un peu fait penser à Nora et Olivia, là, ces deux jumelles qui connaissent... jumelles, ces deux cousines, mon Dieu, qui connaissent un peu une sorte tragique qui vont être ramenées par la mère par la suite. Mais ouais, fait que ça m'a bien plu, même si, évidemment, j'étais comme surprise, mais en même temps, tu sais, je sais pas, c'était pas cher, c'était poétique, ça fitait, là.
Moi, je trouve ça vraiment intéressant que la proposition du Festival de théâtre de l'Université Laval soit vraiment, oui, axée sur le théâtre, mais vraiment axée sur la multidisciplinarité du théâtre. Comme, c'est ça, qu'on le voit avec un plus large portrait. Puis je pense que la performance que Amy est allée voir peut sans doute témoigner de cela. Tu es allée voir, Amy, le spectacle de fermeture, cette fois-ci, qui se passait à Charpente des Fauves ce dimanche.
Oui, exactement. Donc, c'était à Charpente des Fauves. C'était donc à 20h en ville. Ça s'appelait Triologie botanique, tout ça avec beaucoup de cas. C'était une performance, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est comme ça que c'était identifié aussi. Je dois dire d'entrée de jeu que je suis pas une fille de performance. En général, c'est une forme d'art à laquelle je suis un petit peu moins sensible. Mais toujours est-il que je me suis prêtée à l'exercice. Donc, on arrivait, il y avait quand même une belle scène, là, une belle ambiance, quand même, ben, évidemment florale, quand même beaucoup de couleurs, des belles lumières. On avait une vingtaine de noms de plantes, en fait, qui étaient écrites dans un petit chapeau, puis on pouvait nommer, en fait, ces plantes-là. Puis, à partir de cette plante-là, il y avait comme un texte qui était récité. Avec de la musique que je qualifierais de techno. La lecture a duré contrairement à Fred un peu plus longtemps que ce à quoi je me serais attendue. Je me suis aussi questionnée sur la peur d'improvisation versus du planifié, parce que bon, je comprends que l'interaction avec le public était impromptue, puis c'était un peu le public qui choisissait l'ordre, mais j'ai eu l'impression quand même que le reste était assez écrit, puis que finalement il restait plutôt qu'à brasser les cartes du jeu, plutôt qu'à vraiment composer des choses. Donc j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques longueurs. Après, j'ai aimé que la forme des textes varie. On avait des recettes, on avait des textes plus poétiques, on avait de l'anecdotique, on avait des proposés, on avait du très très banal. C'est que ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Je pense que j'aurais aimé croire un peu plus que les choses étaient un peu moins prévu que ce qu'elles étaient peut-être à la base. Puis peut-être que j'aurais raccourci un petit peu, quitte à joindre une deuxième performance ou à scinder en deux. J'ai trouvé que c'était un gros chunk, là, un bon 50-55 minutes de performance qui ne suit pas nécessairement un récit, qui ne suit pas nécessairement une narration. J'ai trouvé donc un petit peu plus long à suivre. Puis je trouvais que par moments, l'ambiance me faisait un petit peu zonante. Après ça, c'était une petite méditation aussi. Mais donc voilà.
Ben, si vous voulez, chers auditeurs, auditrices, en savoir plus sur l'expérience d'Impact Campus au Festival de théâtre de l'Université Laval, ben, c'est possible de lire l'article sur le web, un texte de Frédéric Dompierre Beaulieu, qui est avec moi ici en studio, et de Juliane Campeau, une des collaboratrices d'Impact Campus.
Oui, puis j'en profite aussi pour mentionner qu'il va y avoir d'autres événements de théâtre à l'université. Il y a la troupe Les 13 qui vont présenter, si je ne me trompe pas, trois pièces, donc de la fin avril à la fin mai, si je ne me trompe pas. Puis, outre à l'université, ce qui s'en vient à partir de la semaine prochaine, donc c'est le Festival des contes et menteries à la Maison de la littérature, donc du 2 au 7 avril. Et on va essayer de le couvrir comme on peut aussi, notamment avec Florence, notre collègue à Impact. Ouais, fait que je pense que pour les amateurs de... Peu importe, pas nécessairement juste de théâtre, mais de trucs qui se font sur une scène de manière très large. Il y a quand même des beaux trucs qui s'en viennent.
Ouais, les étudiants et étudiantes de l'Université Laval sont en floraison. Là, j'ai l'impression que c'est sûr qu'en travaillant ici, on voit plus de ce qui se passe. Mais vraiment des belles choses. Je pense entre autres aussi à l'exposition. Labyrinthe, expérience des méandres qui a lieu en fait pendant pour la Biennale de Québec qui est présentée ici à l'Université Laval. Alors voilà, c'est quand même présenté longtemps, là, jusqu'à mi-avril. J'ai pas la date exacte devant moi, mais définitivement, c'est quelque chose à voir.
Oui, puis je pense que, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expos étudiantes là, qui, mon Dieu, ça va pas aujourd'hui, qui ont lieu, en fait, à la salle d'exposition donc, du pavillon Alphonse Desjardins, le pavillon dans lequel on se trouve en ce moment, sauf Amy, mais bon, c'est un autre dossier. Puis c'est des expositions, si je me trompe pas, qui sont accessibles gratuitement. Ouais. Là, fait que, tu sais, c'est le fun. Profitez-en. Tu sais, des fois, si vous cherchez quelque chose à faire sur le campus, peu importe, là, ça coûte rien. Puis ça encourage, je pense, la relève artistique aussi, là, fait que... Pourquoi pas, tu sais?
C'est comme c'est un pavillon auquel on pense quand même souvent à la coop pour aller prendre l'autobus. Bon, l'express passe dans 20 minutes, ça vaut la peine de juste monter à l'étage puis d'aller faire un petit tour. Là.
Définitivement.
Oui, vraiment. Puis, un peu comme le festival aussi, justement, tu peux prendre une passe festival de théâtre, t'as vu ça? Une passe, je pense, pour tous les festivals, mais sinon, tu peux vraiment y aller comme à la soirée. Puis, tu sais, mettons, je sais pas, il y a une soirée, moi, c'était, tu sais, je sais pas, 12 $, mais t'as comme trois spectacles, perfo, peu importe, des ateliers. Fait que, tu sais, ça revient quand même pas
vraiment
trop cher comparé des fois.
Oui, c'est ça. Un billet étudiant en théâtre en ce moment, c'est $30. Là, donc, on est. C'est sûr qu'on. Bon, après, c'est des performances qui sont différentes, mais ça reste beaucoup plus accessible, comme tu dirais de.
Puis ça permet de connaître la relève aussi, la relève étudiante qu'on retrouvera sur les planches peut-être du théâtre Premier Acte, du Trident, de la Bordée, etc., etc.
Oui, puis d'ailleurs, j'ai vraiment une pensée pour Premier Acte avec le Mémoire de Lune que je suis allée voir parce que c'était comme scindé en deux un peu la salle, fait que puis il y avait une rivière au centre, fait que les spectateurs, spectatrices étaient vraiment des deux côtés. Puis ça fait une couple de fois que je vois à Premier Acte, puis que c'est ce genre de setup là où les spectateurs, on est vraiment autour, fait qu'il y a comme pas l'espèce de
on se sent dans la pièce exactement. Avec les interprètes. On sent pas qu'il y a comme une distance entre les interprètes, la pièce et le public qui est comme en...
Oui, vraiment.
Dit en deux actes. Là.
Oui, exactement. Tu sais, où est-ce que t'as vraiment la salle, la scène, là, il y a comme... de plus en plus cette tendance-là, je pense, à inclure un peu plus le public dans l'expérience. Puis moi, ça me plaît bien parce que je trouve que... Mais ça fait changement, puis justement, il y a comme une proximité de plus avec qu'est-ce qui se joue devant nous.
100%. Eh bien, merci, cher...
Merci à toi.
Cher collègue Fred, Amy.
Merci à toi.
Et j'ai très hâte de reparler avec vous de d'autres événements qui se passent ici à l'Université Laval ou ailleurs. Oui. Pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on part, vous savez, les mardis, c'est les mardis nouveautés, souvent du vendredi dernier. Alors, on écoute le titre Orange de Alexandra Lust. Alexandra Lust, qui est un duo synth-pop de la ville de Québec. Ils ont sorti un nouvel album intitulé Smoke. C'est paru vendredi dernier, le 22 mars. Et si vous aimez
c'est que vous allez écouter. Eh bien, prenez note qu'il y a le lancement de Alexandra Lost, ben de l'album Smoke d'Alexandra Lost au Pantoum le 19 avril avec Night Lunch. Ça va vraiment être un excellent spectacle. Alors, je vous fais découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, le deuxième titre de l'album qui s'appelle Orange. Et voilà. Et reste à l'écoute, car à 16h30, je reçois votre chroniqueur jeu vidéo, Julien. On va parler de Baldur's Gate 3. Vous écoutez, Chérie, j'arrive sur le zone de Chiz 94.3.
First film that made me scared, and I thought of this whole world ending. I thought of dying unprepared. We moved into a to be an inventor, collected scraps to make a portal. I wanted so much for magic to be real. So many dreams of flying, rising high over the crowd, and they'd go, "Oh man, look at her go." And I'd go, hospital when I was 14. My friends all left me there spinning. Dad was angry, but you saw everything. And you made me laugh as the nurses undressed me. You held my hand as they put the needle in me. I never saw you cry. Not until our dog died. And the whole family together. We held her body as they put the needle in her. And then I saw you cry. And then I saw you cry.
Vous venez d'entendre The Real House de Adrienne Linker. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Adrienne Linker, c'est une auteure, autrice, compositrice, interprète américaine, plus précisément de Indianapolis. Elle a sorti un tout nouvel album qui est paru vendredi dernier qui s'appelle Bright Future. Alors voilà! On a mes collègues Mémo Gauthier et Kim Letourneau, accompagnés de Julien Richard, en ont parlé au Club Critique, où ils ont parlé de trois albums, dont celui de Adrienne Linker. Il est disponible sur le site web de Chiz.ca si vous voulez avoir un retour complet sur l'album. Pour notre part, chers auditeurs et auditrices, on part en pub publicitaire, mais au retour, on jase jeux vidéo avec Julien Richard, votre chroniqueur jeux vidéo. On parle de Baldur's Gate 3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que j'ai pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben je suis ça pour toi. Écoute le monde de Rico Sono, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben, il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone, il y a même la musique punk et metal.
Ah oh, ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool, il y a la musique no country, rap, reggaeton, EDM club, sans oublier découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est de rendez-vous!
Il ne paye pas le prix!
Le mental! Mental toughness!
Pour vivre la folie d'ici, branchez-vous à Conduite Antisportive les lundis de 15h30 à 16h30 afin de suivre l'actualité du Rouge et Or et du sport universitaire.
Incroyable! Renversant! Super!
Et pour ne rien manquer dans le monde du sport professionnel, c'est les vendredis de 15h à 16h que ça se passe.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
C'est un rendez-vous les lundis et vendredis
sur les ondes de Chiz 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
We'll be right back.
De Family Man. Vous écoutez Chérie J'arrive sur le zone de Chiz 94.3. Si vous ne connaissez pas Family Man, c'est un groupe post-punk de Montréal. Ils ont sorti un tout nouvel album le 22 mars dernier, donc vendredi dernier, dans la foulée des sorties du vendredi. L'album s'appelle Iconoclast et c'est franchement très, très bon. Voilà. Alors, pour la suite de l'émission, on est accompagné de Julien Richard, votre chroniqueur jeux vidéo.
Salut, oui, rebonjour.
Et aussi, à temps partiel, chroniqueur au Club Critique.
Exactement, qui était à 2 heures tantôt.
Ben, c'est ça, justement.
Bonjour aux auditeurs qui m'écoutent encore, qui sont encore là avec moi, là, qui m'écoutaient tantôt.
Là, on revient sur ta niche ici à Chérie J'arrive, oui. Soit l'univers fantastique du jeu vidéo. Et là, tu nous parles d'un jeu qui a fait parler quand même dans les derniers mois,
oui.
Soit Baldur's Gate 3.
Oui, madame. C'est un jeu qui a fait parler parce que c'est un jeu qui a été... en fait, très, très, très bien reçu. Je pense que je vais commencer par ça. Là. Mm-hmm. Dans les Game Awards, là, la plus prestigieuse, je dis ça avec des guillemets, là, parce que c'est juste à cause que c'est américain. Là. Mais les Game Awards, ils ont vraiment... en fait, Baldur's Gate, ils ont vraiment fait un raz-de-marée dans les prix des Game Awards. Ils ont gagné le prix le plus important qui est le Game of the Year, le jeu de l'année. Puis ils ont, en fait, rapidement, Rafale, ils ont aussi gagné pour la meilleure performance. En fait, l'acteur d'Astarion, pour ceux qui ont joué au jeu, il a gagné le meilleur acteur là, pour cette année-là. Ils ont aussi gagné le meilleur jeu multijoueur, le meilleur jeu de rôle. Et deux catégories là, qui sont quand même très intéressantes. Fait que le vote des joueurs,
ouais.
Player's Voice, puis sinon le support à la communauté. Fait que ça, tu peux voir ça comme le service à la clientèle un peu derrière le jeu. Là, okay. Puis de communauté très présente. Là.
Quand même 6 prix assez importants.
Oui, c'est quand même assez prestigieux. C'est ça, je me suis pas, j'ai pas fait référence aux autres Game of the Year, aux autres gros jeux vidéo des dernières années, mais c'est très rare là, qu'un seul jeu gagne autant de prix différents. Fait que c'est, je tenais à le remarquer avant qu'on en rentre dans notre mise en contexte.
Yes, ben c'est. Puis encore une fois, j'ai mis le petit clin d'œil qu'il y a quelques Montréalais qui ont travaillé
oui.
aussi sur le jeu. Fait que même si c'est pas un jeu d'ici, il mm-hmm. y a quand même des gens du Québec qui ont travaillé sur Baldur's Gate 3.
Exactement. C'est un très gros jeu, fait que nécessairement, c'est pas seulement au Québec. En fait, le siège social de Larian Studios, les personnes qui ont développé et publié le jeu, ils sont basés en Belgique. Puis, je serais pas vraiment pas surpris s'il y avait d'autres personnes de d'autres nationalités là, qui avaient travaillé sur mm-hmm. ce jeu-là. Puis, c'est ça, juste rapidement, pour finir ça avec Larian Studios, ils ont comme pris l'IP de Baldur's Gate, mais de ce que je comprends, c'est pas eux qui ont développé les premiers jeux. T'sais, là, on est au troisième ouais. dans notre critique aujourd'hui, mais les deux premiers ont été développés par d'autres personnes.
Okay.
Ils ont vraiment plus, se sont appropriés un peu l'identité Baldur's Gate. Puis avant ça, si jamais vous connaissez, ils ont sorti une série de jeux portant sous le nom de Divinity Original Sin, qui est un RPG. Personnellement, j'ai pas joué, mais je sais que c'est quand même populaire. Là. Puis c'est ça que Larian Studios sont reconnus à part Baldur's Gate maintenant.
Puis pour les auditeurs auditrices qui ne connaissent pas l'univers de Baldur's Gate, c'est quoi un peu l'histoire là, derrière cette série? Slash ce jeu-là. Je ne sais pas s'il y a comme un fil conducteur entre le premier, le deuxième, puis le troisième.
Ouais, ben on est un peu dans, je pense, la même narrative. Mettons, les événements des deux premiers jeux sont canons dans le troisième.
OK.
On est dans le même univers, c'est-à-dire qu'on est dans un univers Donjons Dragons. Puis quand on est, tu sais, le univers Donjons Dragons, tu sais, celle-là qui est vraiment établie là, avec consensus là, dans le monde un peu, fait que je pense qu'en fait il appelle ce monde-là Faerun, si je me souviens bien. Puis Baldur's Gate, c'est vraiment là, finalement le nom d'une des villes qui existe là, dans l'univers ouais. Donjons Dragons là. Puis c'est ça, fait qu'on, en fait, côté histoire, on se retrouve dans une situation assez précaire dès le début du jeu, parce qu'on est sur un vaisseau d'aliens qui s'appelle les Mind Flayers dans le jeu. Puis tu viens juste de te faire implanter par un parasite qui te menace de te transformer en alien. Puis en fait, tu commences le jeu de même. Tu commences à infecter, puis un peu la première prémisse du jeu, oui, c'est d'essayer de trouver comment sortir de ce guet-apens-là. Mais c'est sûr qu'on s'enligne dans une histoire qui est beaucoup plus grosse que juste ça, bien sûr. Puis on est un peu en mode sauver le monde dans l'histoire à certains moments. Puis il y a beaucoup d'emphase sur l'histoire de faire des aventures avec des personnages que tu croises dans ton chemin. Tu bâtis des relations, puis tu les aides dans leurs propres problèmes, dans leur propre cheminement, finalement.
Puis c'est quoi les particularités du gameplay? Qu'est-ce qui différencie Baldur's Gate 3 de comme les autres jeux vidéo du même genre?
On est dans un genre qui est de role-playing game, bien okay. sûr, fait que d'un jeu de rôle. Puis je te dirais qu'est-ce qui les distingue le plus, je pense, c'est l'application de la formule Donjons Dragons dans le gameplay quasiment au complet. Quand on parle du début, la création du personnage est très 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 approfondie. Faut tu sais c'est quoi ta race, c'est quoi ton nom, ta famille elle vient d'où, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, plein de choses de même.
Vraiment comme quand tu bats ton personnage à Donjons Dragons.
Exact.
Pour
les personnes qui l'ont déjà fait en vraie vie, ouais. c'est quasiment autant approfondi que ça.
Okay.
Puis c'est moi personnellement j'ai passé une heure et demie de temps à créer mon personnage. Fait que, imagine.
T'as même pas commencé le jeu
non,
encore.
T'as pas commencé
à
le
la
jeu.
Création du personnage pour vraiment t'imprégner de c'est quoi l'univers que tu veux créer.
Exactement. Puis dans le fond, tu crées ta personne, puis tu crées la personne que tu veux être dans ce jeu-là. Tu crées ta personnalité aussi un peu. Puis c'est vraiment fascinant parce que là, j'embarque un peu dans ma critique, mais c'est à cause que le jeu te permet de faire ça. Il permet d'être la personne que tu veux. Fait que c'est les possibilités sont un peu infinies. Là.
Puis est-ce que ton le rôle ou ta personnalité du personnage de Cal a un impact? C'est quoi son impact sur le jeu, en fait?
Bien sûr. En fait, la façon qu'il faut que tu vois le jeu, c'est quasiment toutes tes actions dans le jeu sont déterminées par des coups de dés. Fait que, mettons, si tu veux faire voler quelqu'un, faire du pickpocket, puis si jamais tu veux juste genre lever, casser une porte, par exemple, qui est dans ton chemin, tes personnages, ils vont rouler un dé. Puis tout dépendant, c'est quoi les habiletés de ton personnage, un peu les choses que tu as choisies pendant que tu créais ton personnage, ça va soit faciliter ou rendre plus difficile le coup de dé, mettons. Mm-hmm. Fait que, par exemple, moi, dans mon Astarion, qui est un des personnages les plus connus, un des compagnons les plus connus, c'est comme un pickpocket menteur. Il est pas méchant, il est bien gentil. Mais c'est un pickpocket menteur, fait qu'il va avoir plus de facilité à mentir dans des conversations avec les gens que le reste des compagnons dans ta troupe. Fait que, puis sinon, il va avoir plus de facilité à voler des choses, puis à se cacher, puis c'est vraiment, tu vois la personnalité un peu de la personne. Si c'est un guerrier, il est fort, ça veut dire qu'il va être capable de lever des grosses charges, puis il va être capable de sauter loin, tu comprends, c'est comme ça que le gameplay, il a sa relation avec le personnage, finalement.
Puis je suis curieuse, c'est quand même un jeu multijoueur, fait que c'est ouais. Ça se joue en ligne.
Exact.
Comment est-ce que ça s'imbrique? Comment est-ce que ça s'imbrique dans Baldur's Game, le multijoueur? Puis est-ce que c'est tout autour de ça, en fait?
Non, vraiment pas. T'as deux options, finalement. Là. Okay. T'as vraiment, tu peux jouer tout seul de ton côté, t'as fait ta propre aventure. Puis à partir du moment que tu vas commencer à jouer à multijoueur, en fait, à part si c'est toi qui es le hôte de la partie, c'est comme si t'as embarqué comme un invité dans la partie de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis finalement, l'histoire va être la même, puis vous faites les choix ensemble, ce qui est vraiment intéressant. Dans ce jeu-là, dans le gameplay, il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de réponses à donner à des personnages dans le jeu. Puis quand tu joues en multijoueur, ben faut comme tu co-construises tes réponses-là. Faut que tu t'entendes avec ton ami avec qui tu joues, parce que sinon, il va avoir de la bisbille.
Ouais, c'est ça. Puis même, ça doit être un challenge de plus si tu joues vraiment comme avec n'importe qui. Tu te connectes à une partie qui est ouverte, mettons, à tous. Ou avec
exact. Mais non, c'est personnellement, j'ai pas eu l'expérience multijoueur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais commencer une run avec un de mes amis, puis on va se faire du plaisir là-dedans.
Puis, comment tu en parles, Julien? Tu me sembles avoir apprécié quand même ton expérience.
Ouais.
Avant d'y aller avec ton appréciation, c'est juste un jeu qui d'une durée de combien de temps? Combien d'heures on peut passer sur Baldur's Gate 3?
J'ai pris le temps de noter ça pour toi. Bon, fait que maintenant, on va commencer personnellement. Moi, j'ai même pas encore fini le jeu. Je suis pas un bon chroniqueur. J'ai pas fini le jeu que je chronique aujourd'hui. Mais écoutez, c'est à cause que je préférais l'arrêter où est-ce que j'étais rendu, puis de pas m'obliger de le jouer pour la chronique aujourd'hui. Là.
Mais
je suis à la troisième acte du jeu, fait que mettons dans le troisième tiers, puis j'ai environ 80 heures de jeu derrière moi.
Quand même, hein?
Fait que c'est vraiment beaucoup.
Ouais.
Puis sinon, si t'étais pas comme moi, puis que t'aimerais juste te concentrer sur la mission principale, je me suis fait dire que ça peut être entre 20 et 35 heures.
OK. Ouais, c'est toi, tu fais comme les à côté, ouais, comme on voit souvent dans des jeux vidéo
exactement.
De ce style-là, mm-hmm. que tu peux explorer davantage puis faire les je veux le dire en anglais, hein, le monde du jeu vidéo, tu dis les side quests,
exact.
Les aventures.
Quêtes secondaires.
Les quêtes secondaires. Hey, on va être rendu expert en francisation du jeu
vidéo.
On va
faire notre propre dictionnaire des mots jeux vidéo à Chiz. Ah, ça serait assez beau.
100%. C'est un projet. On le met sur la table ici, devant vous, chers auditeurs, auditrices.
Mais, puis, tu sais, juste pour finir vite sur le temps de jeu, je pense qu'une belle façon qui est une belle, c'est des beaux exemples qui montrent à quel point que le jeu il est gros finalement, puis que t'as tellement, sérieux, c'est un des jeux qui a le plus de contenu qui a jamais été fait de l'histoire des jeux vidéo selon moi.
Ah ouais, ok.
Parce que en fait, t'as deux fois plus de cinématiques que la série au complet de Game of Thrones. C'est-à-dire, t'as 147 heures de cinématiques différentes dans le jeu. Puis t'as aussi du texte qui est aussi long que les trois livres de Lord of the Rings combinés.
Aïe.
Je sais plus ça fait combien de mois en fait exact, mais je sais que de mémoire, quand tu regardes un livre de Seigneur des Anneaux, ça, c'est juste une grosse brique. Là, une bonne grosse brique.
Si je peux vous donner, pour l'anecdote, cher auditeur, auditrice et toi, Julien, Mémo Gauthier est encore en train de lire le premier, je pense que ça fait 3 ans qu'il est sur le projet du Seigneur des Anneaux en livre. Hein, fait que ça peut vous donner une idée.
Lâche pas Mémo, il t'en reste deux après.
Ah, c'est ça. Ah ouais, mais quand même, hein, on voit que Baldur's Gate 3, c'est quand même un jeu chargé, mais pour les fans de jeux vidéo qui aiment avoir du contenu de la, du autant au niveau des dialogues que de la ciné, cinématique. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est pas pour rien que gagner autant les éloges, autant du public que du jury des Game Awards cette année.
Puis c'est ça, j'ajouterais juste une petite réserve. Là, ça a l'air vraiment, vraiment gros de la façon que je l'ai dit. Puis, admettons, je pourrais aussi dire, vous dire que ça a été reporté qu'il y a genre plus que 100 ou 1000 fins différentes au jeu. Mais c'est que faut vous voyez le jeu comme le concept de l'effet papillon. Je pense le jeu il te donne tellement beaucoup de liberté puis il te laisse tellement choisir un peu c'est quoi la propre voie que tu fais à travers le jeu que il y a plein de variables, tu sais. Il y a plein de choses, des choix que tu prends qui vont juste seulement un petit peu changer les cinématiques, mais qui vont faire en sorte que finalement ça compte pour deux, tu sais. Que ça soit juste d'essayer de tuer quelqu'un à tel moment dans le jeu versus le tuer 4 heures plus tard dans le jeu, ça peut avoir des différences là.
Ça c'est cool. Ça c'est une belle de belles possibilités.
Exactement.
Là, aux joueurs,
puis... Je pense que le jeu s'est bâti autour de ce que le joueur penserait faire, tu sais, que ce que le joueur peut faire. Fait que ça laisse en sorte que en tant que joueur, t'es pas frustré par le fait que je peux pas faire ça. J'aurais vraiment voulu faire telle affaire, mais le jeu me le permet pas. On n'est pas dans un jeu de même, on est dans un jeu où est-ce que ta liberté d'expression est quasiment absolue.
Ah ouais, très cool. Ben ça c'est pas, c'est souvent on voit ça ou on entend ça, tu sais, des fois des jeux vidéo qu'on a, tu sais, c'est un peu restreint, des fois il y a pas autant cette liberté là, puis je pense que c'est pour ça que peut-être tu l'as autant apprécié, puis que le public aussi l'a autant apprécié là, cette est-ce qu'il y a d'autres points forts que tu aimerais nommer ou
ben je veux vraiment nommer le, je pense que un des moment, une des choses les plus marquantes à propos de ce jeu-là, c'est le développement des personnages, puis c'est l'attachement que t'as envers les personnages. C'est des personnages très bien écrits, premièrement, puis c'est le jeu, il est long, tu sais. Fait que tu passes beaucoup de temps avec ces personnes-là. Fait que t'as vraiment le développement d'une relation comme dans la vraie vie, puis je pense à ça rapidement, pour les personnes qui ont joué à Red Dead Redemption 2, c'est un peu dans la même même dynamique, où est-ce que ça fait tellement beaucoup de temps que tu passes avec ces personnes-là que la seconde que tu leur passes une petite affaire dans leur vie, ça t'affecte toi aussi. Puis tu sais, tu peux développer des relations d'amoureuses avec les personnages. Puis en fait, c'est vraiment drôle à dire parce que finalement, tous les personnages dans le jeu sont automatiquement queer parce que tu peux matcher avec n'importe qui.
Cool.
Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. C'est, comme je te dis, ça se rapporte à la liberté d'expression puis d'agir du joueur. Là. C'est vraiment beau de ce côté-là. Puis juste pour finir, mettons, c'était du côté des animations. Animations visuelles, des personnages aussi. Je trouve que Baldur's Gate, ils ont créé un standard que tous les jeux vont devoir appliquer à partir d'aujourd'hui parce que même la personne la plus banale, le vendeur de journal sur le coin d'une rue à quelque part dans le jeu, il va être aussi bien animé que les personnages principaux là, qui prennent part là, dans l'histoire.
Ouais, juste en regardant la bande-annonce du jeu puis un peu du gameplay avant la chronique, tu sais, j'étais comme waouh, tu sais, je trouvais ça magnifique là, justement. Puis, ça me rappelait un peu, sans savoir que c'était inspiré de Donjons et Dragons et tout ça, tout de suite, ça m'a fait penser à World of Warcraft ou t'sais, à cet univers-là. T'sais, fait que j'étais pas trop loin. Ben, c'est totalement différent, on s'entend, là, comme gameplay, là, on est quand même ailleurs. Mais si vous aimez ce genre d'univers-là, le donjon, ben, autant Donjons et Dragons, World of Warcraft et tout ça, plus... comment on appellerait ça?
Mais c'est des mondes fantastiques en mode rôle. Ouais. Tu sais, en mode roleplay.
Ouais.
Exact.
Nice. Eh bien, merci.
Ça fait plaisir.
Alors, on recommande, recommandé par votre chroniqueur jeu vidéo, Julien Richard, Baldur's Gate 3, disponible sur toutes les...
Oui, madame. Puis je vous dirais, peu importe le prix que vous payez ou le nombre de contenus qu'il y a dans ce jeu-là... vous allez en avoir pour votre argent. Puis si ça va faire comme oui, vous aimez le jeu, ben vous allez vous tanner avant même de finir le jeu. Ça va être le fun de revenir. Là. Mais là, c'était beaucoup trop. Là.
Ouais, j'avais l'impression d'un break. Là.
Exact.
Cool. Eh bien, merci. On se revoit dans 2 semaines pour parler d'un autre.
Ouais, je pense qu'on va retourner à Montréal. Là. On va retourner local. J'ai trouvé un jeu, We Happy Few, que ça s'appelle en anglais. C'est un jeu qui a été développé à Montréal. On va pouvoir en parler davantage la prochaine fois.
Yes. Merci, Julien. Puis on revient sur ta journée radiophonique avec un artiste dont vous avez parlé au Club Critique cet après-midi. Comme je disais tout à l'heure,
l'épisode est disponible sur le site de Shiz. Et c'est Loïc April. C'est pas la première fois que vous entendez ce nom-là à Chérie J'arrive. Il a sorti plusieurs singles au courant des derniers mois. Et il a enfin sorti un album, son deuxième album qui s'appelle Loïc April 2. Hein?
Très original.
Très original, on adore. C'est sorti le 22 mars 2024. Puis je serai en entrevue avec Loïc le 18 avril pour le double lancement d'album qui se passe au Pantoum. Mmh. Ça va être Loïc April et Loose. Ça se passe le 20 avril au Pantoum. Alors, on écoute la chanson À défaut d'y croire de Loïc April. Vous écoutez Chérie J'arrive, saison de Shiz 94.3. Mais restez à l'écoute, chers auditeurs, auditrices, car à 17h, on parle danse plus précisément de mon expérience au Diamant. Je suis allée voir le spectacle Danseur du ciel et on va parler un peu plus de la programmation de la Rotonde. Alors voilà.
S'il le faut, j'ai trouvé l'oasis de tes sanglots. J'y recreuse les cœurs pour un peu plus haut. Confetti agrafé sur mes sentiments. J'étais dans un lit autrefois trop grand.
c'était Allo Mode, l'artiste indie pop, une artiste indie pop de France. Vous venez d'entendre le deuxième titre de son nouvel album. Le deuxième titre s'appelle Terre Infinie. Alors, comme je viens de vous dire, en fait, Allo Mode, c'est une artiste indie pop de France. Elle a sorti un tout nouvel album qui s'appelle Celebrate. C'est sorti aussi dans la foulée des sorties du vendredi, chez Auditeur Auditrice. Donc, c'est sorti vendredi dernier. Et pour vrai, je connaissais pas, mais ce titre-là qui vient de jouer, Terre Infinie, j'ai vraiment, vraiment aimé. J'espère que vous aussi. Alors voilà, je vais définitivement écouter le reste de l'album. Alors, pour notre part, on part en courte pause publicitaire, mais restez des nôtres, car au retour de la pause, on continue à faire jouer des nouveautés ici à Chérie J'arrive, mais je vous parle aussi du spectacle Danseur du ciel qui était au Diamant la semaine dernière je vous parle un peu plus de la programmation de la Rotonde et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Benjamin, mais tu fumes à l'intérieur.
Mais Émile, on n'est pas en 2024, on est dans les années 70. Les légendes du vinyle, chaque mardi de 19h30 à 21h.
Sur les ondes de Chiz 94,3.
Les légendes du vinyle, le vrai vinyle, des vraies chansons.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Tous les vendredis à 13h30 sur Chiz 94,3 FM.
Vous êtes de retour à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et j'ai envie de vous faire un retour sur un spectacle que j'ai vu avec votre chroniqueuse danse Valérie Pitre. Je la salue, salut Val. On est allé voir ensemble, on vous en a même parlé la semaine dernière, le 21 mars dernier. C'était la première de Danseur du ciel, un spectacle... ébranlant. Pour vrai, j'ai vécu plusieurs gammes d'émotions durant ce spectacle. C'était une production de l'artiste Barbara Canertoni Diabo. Alors, je vais vous mettre en contexte de qu'est-ce qui s'est passé. J'en perds un peu mes mots parce que, pour vrai, c'était un spectacle vraiment, vraiment émouvant. C'est un spectacle de danse qui met... en lumière, des moments qui ont marqué l'histoire. Et c'était quasiment un peu documentaire comme prestation de danse. Ce qui est vraiment intéressant, ce que j'avais pas encore vu d'ailleurs à la programmation de la Rotonde cette année. Alors vraiment, très, très belle proposition. Dans la performance, on est à la fin de l'été 1907, alors que les travaux de construction du pont de Québec progressent. Comme si vous connaissez un peu l'histoire du pont de Québec, le pont va s'effondrer une première fois, tuant 33 ouvriers, travailleurs du fer de la petite communauté Mohawk de Kanawake. Et tout le long, en fait, de la pièce, de la prestation de danse, on parcourt cet événement-là de différents points de vue. Il y a l'interprète et la chorégraphe Barbara Canertoni Diabo qui... Je vais décrire sa présence là, comme si c'était la gardienne de la communauté. Le spectacle commence avec une prestation d'elle en solo avec des cerceaux, de multiples cerceaux. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est, ma foi, vraiment impressionnant. Et par la suite, Il y a huit artistes sur scène. En fait, six artistes en danse, pardon, qui viennent sur scène. Trois qui représentent les ouvriers, ouvrières, et trois autres qui représentent leur partenaire. Et c'est un mélange, un spectacle qui mélange danse, qui mélange l'histoire, qui mélange aussi la musique, parce qu'il y avait une prestation moitié en live, moitié c'était pas en live, mais il y avait vraiment un musicien qu'on voyait à notre droite sur place, qui rajoutait vraiment, vraiment à la performance, puis à toute cette qui rajoutait beaucoup d'émotions dans la musique. Avec ça, j'ai vraiment apprécié. Et oui, il y avait aussi des projections derrière qui étaient tout aussi époustouflantes. Puis il y avait beaucoup de moments où on mettait en lumière ces ouvriers-là qui sont décédés pendant cette tragédie-là de la construction du pont de Québec. De la première construction, en fait. Puis j'en ai vraiment appris plus sur la construction du pont de Québec. Il y a plein de petits détails que je savais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi par la suite aux familles pour aider, en fait, avec le deuil. Puis je dis aider en grand guillemets. C'est vraiment, vraiment choquant que tout ce qui s'est passé. Alors, pour vrai, c'est vraiment un spectacle à voir si vous revoyez cette proposition-là passer. Danseur du ciel, un spectacle de Barbara Kenneratoni Diabo. J'ai braillé, j'ai pleuré, chère auditeur, auditrice. J'ai versé des larmes pratiquement du début à la fin. Il y a même un moment dans la pièce où on voit, où qu'on vit l'effondrement du pont de Québec, puis pour vrai, j'étais sans mots. J'avais les larmes aux yeux. Comment les interprètes ont joué avec cette émotion-là, c'était, ma foi, époustouflant. Pour vrai, c'est vraiment dans les spectacles, dans les propositions de la Rotonde qui m'a le plus ému cette année. Magnifique, magnifique. Alors voilà, si vous voyez Danseurs du ciel passer, les spectacles sont finis, c'était le 21 et 22 mars. La salle était comble, je vous dis, les gens étaient présents au Diamant pour cette performance-là. Et voilà. Alors, sinon, il y a d'autres choses qui se passent à la Rotonde dans les prochaines semaines. Peut-être vous parler brièvement d'un spectacle jeunesse, parce qu'il y a quand même des belles propositions pour notre jeunesse à la Rotonde. Alors, c'est le spectacle Le Trésor qui va être présenté le 7, le 13 et le 14 avril, soit à 11h. Ou à 15h. Alors ça, c'est une production, en fait, du théâtre jeunesse Les Gros Becs. C'est un spectacle pour les 4 à 8 ans. Alors si vous avez des tout-petits dans votre entourage, c'est vraiment des belles activités. Moi, je me rappelle vraiment quand j'étais plus jeune, puis qu'on allait voir les sorties du théâtre jeunesse Les Gros Becs, je m'en rappelle encore. Tu sais. Puis même si vous êtes enseignant, enseignante, puis que vous avez des groupes scolaires, puis vous voulez les amener, ben c'est possible, en fait, de consulter le site du théâtre jeunesse Les Gros Becs pour les informations, puis pour réserver aussi avec votre groupe. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ce spectacle-là se veut une ode à la musique québécoise. Fait que le spectacle Le Trésor du théâtre Les Gros Becs, alors on met une figure marquante de la danse contemporaine au Québec, soit Pierre-Paul Savoie, qui est décédé en 2021. Puis il a puisé, en fait, dans le répertoire musical québécois pour créer Le Trésor. C'est sa dernière création interdisciplinaire. Alors, on peut voir des chansons, on peut voir ensemble, en fait, des chansons de Vigneault, L'Éveillé, Leclerc, etc. Puis c'est vraiment une chorégraphie qui se veut, qui oscille entre les fougues et la poésie. Alors, si vous voulez, c'est une belle manière d'en faire connaître plus sur des figures marquantes du Québec à travers le spectacle Le Trésor, présenté le 7, 13 et 14 avril au Théâtre Jeunesse Les Gros Becs. Alors voilà. Puis sinon, une autre proposition qui, si vous êtes des fans, en fait, si vous nous écoutez, si vous êtes des fans de radio, je crois que cette proposition va vraiment vous intéresser. C'est le spectacle B-Side qui est une production de Marie Bellin, une artiste de Montréal. C'est un spectacle qui commence la semaine prochaine, donc c'est les 3, 4, 5 et 6 avril à 20h et ça se passe à la maison pour la danse. Et c'est un spectacle qui mélange en fait une installation, c'est le Radiomaton et voilà. Puis, ce spectacle-là, on parle de fake news, de construction de la vérité, de quelle manière le corps contribue-t-il à donner de la crédibilité au discours dominant. Alors, dans la prestation, on emprunte des mots, puis des mouvements des médias locaux. Puis, les interprètes de B-Side sont trois interprètes sur scène, relèvent de l'identité de l'ensemble des médias de masse. Pendant la performance, il va y avoir une diffusion radiophonique de chaque ville où la pièce est jouée. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis il y a une partition verbale qui se crée à travers tout ça. Alors moi, je suis vraiment curieuse de voir comment Marie Bellin a mélangé la danse à la radio. Ça va être, ma foi, vraiment intéressant. Puis en fait, Marie Bellin, dans cette réflexion-là, s'interroge sur le déferlement d'informations qui entrent dans notre quotidien puis qui éclabousse du même fait notre rapport à la vérité et aux médias. Vraiment, ça va être un spectacle fort intéressant. Ça se passe à la Maison pour la danse le 3, 4, 5 et 6 avril. Pour vrai, chère auditrice, les sorties à la Rotonde, c'est incroyable. Moi, je vous dis, c'est vraiment des sorties culturelles que j'adore à chaque fois. On vit toutes sortes d'émotions. On parcourt vraiment différents chorégraphes, interprètes. Je vous recommande, si vous n'avez pas encore vécu une expérience de danse avec la programmation de La Rotonde, alors je vous invite à aller la consulter. C'est sur larotonde.qc.ca pour voir toute la programmation jusqu'à la fin de la saison. Alors voilà, pour notre part, on continue en musique et c'est le groupe You Do Right que j'ai envie de vous parler parce que le groupe a sorti un nouveau EP. Le nouveau EP qui s'appelle The Sacred Fuck. Si vous ne connaissez pas You Do Right, c'est un trio rock expérimental de Montréal. Et peut-être avez-vous vu passer la programmation pour les 10 ans des Nuits psychédéliques à Québec. Et You Do Right sera présent. Alors voilà. Mais je vous en parle après avoir écouté la chanson. On écoute le premier titre de l'album qui s'appelle Arm with the Seven League Boots of Our Knowledge. Tous les titres de l'album sont très très longs. Alors on écoute ce titre. Vous écoutez You Do Right, Arm with the Seven League Boots of Our Knowledge. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Thank you.
vous venez d'entendre la chanson Arm with the Seven League Boots of Our Knowledge de You Do Right. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Comme je disais, You Do Right a sorti un nouveau EP. Et pour mon plus grand bonheur, j'espère pour le vôtre aussi, ils font partie de la programmation des Nuits psychédéliques de Québec qui fêtent leurs 10 ans cette année. On s'entend que 2024, c'est une année de marque pour des festivals de la ville de Québec. C'est vraiment très cool. Alors, les Nuits psychédéliques, ça se passe du 2 au 4 mai 2024 au Pantoum. Et si vous ne connaissez pas les Nuits psychédéliques, c'est un festival indépendant de musique psychédélique, garage, stoner et expérimental. Puis pour vrai, quand j'ai vu la programmation, j'étais vraiment contente. Et c'est le cas de mes collègues ici à Chiz 94.3. On est des partenaires aussi du festival, accompagnés du Pantoum, le Grendel, Première Ovation et le Knockout. Alors, c'est ça. On va être là, chers auditeurs, auditrices, pour vous en parler plus longuement. Les Nuits psychédéliques, c'est 3 soirées de spectacle où on peut découvrir des artistes d'ici et d'ailleurs qui vont vous faire vibrer sur le son de la musique psychédélique, rock et expérimentale. Vous pouvez acheter des billets, un passeport pour 3 jours. Puis je pense que c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 77$ pour 3 jours de spectacle. C'est quand même vraiment pas cher. Et sinon, vous pouvez acheter aussi les billets journaliers pour les spectacles qui vous parle le plus. On va avoir des bands comme Hot Garbage que j'ai full hâte de voir en show, Gloin, aussi un groupe de la ville de Québec qui s'appelle Louis Charles, dont vous avez déjà entendu parler ici à Chérie J'arrive. Il va aussi avoir You Do Right que vous venez d'entendre. On entend mon téléphone en background et plein d'autres ben aussi. Alors vraiment, c'est un événement à ne pas manquer, comme je vous dis. Ici à Chérie J'arrive, on va être là-bas avec mes collègues pour vous en dire plus longuement sur ce festival. Fait que c'est ça. J'ai envie de vous faire écouter des artistes qui vont être présents au festival. Il va y avoir des bands, comme je disais, de Ladysmith, Louis Charles, Motherhood aussi, Solipsisme et bien d'autres. Hein. On va pas toutes les nommer en rafale, mais je vais mettre une chanson du groupe Hot Garbage, pour vrai, qui est quand même une découverte cette année. Alors, on écoute la chanson Mystery de Hot Garbage. Vous écoutez Chez J'arrive, saison de Chiz 94.3. Yeah. Vous venez d'entendre Mystery de Hot Garbage. Vous écoutez Cherche J'arrive sur les ondes de Shiz 94.3. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, sachez que Hot Garbage sera aux Nuits psychédéliques de Québec qui se passe du 2 au 4 mai 2024 au Pantoum. Le festival fête sa dixième année. Alors, wouhou! On célèbre. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, je vous amène à Montréal, hein, on va très très loin, pour découvrir l'artiste Olivier Faubert qui a sorti un nouvel album qui s'appelle « Pour ne pas mourir en hiver ». C'est Olivier Faubert, un auteur, compositeur, interprète. Puis comment je décrirais sa musique? Comment on pourrait dire ça? Ben, je dirais que ça se joue dans le indie rock. Ouais, indie rock, pop rock. Alors voilà, on va écouter le deuxième titre de l'album qui s'appelle Sans Daou. Alors on écoute Sans Daou d'Olivier Faubert ici sur le journal de Shiz 94.3.
Bye.
Vous venez d'entendre Sandaou d'Olivier Faubert. Vous écoutez Chérie J'arrive sur la zone de Chiz 94.3. Et sur cette, c'est sur cette chanson qu'on termine, chers auditeurs et auditrices, l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs, auditrices. C'est toujours un plaisir de revenir à chaque semaine vous parler de l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Je vais remercier mes invités d'aujourd'hui, en commençant par mes collègues d'Impact Campus, votre journal étudiant ici à l'Université Laval, Fred et Amy, qui nous ont parlé de leur expérience au Festival de théâtre de l'Université Laval. Alors voilà, si vous pouvez lire, en fait, si vous voulez avoir plus de détails sur cet événement, il y a un article complet qui parle de toutes les soirées du Festival de théâtre de l'Université Laval sur le site d'Impact Campus. Sinon, un grand merci à Julien Richard, votre chroniqueur jeux vidéo, qui nous a parlé de Baldur's Gate 3. Alors, pour les fans de l'univers fantastique, de Donjons Dragons, c'est définitivement un jeu vidéo qui va vous plaire et qui a été acclamé par la critique aux Games Awards cette année. On va, si vous aimez les chroniques jeux vidéo, on retrouve Julien dans deux semaines, toujours à la même heure, les mardis à 16h30. Et sinon, je vous ai parlé du spectacle Danseur du ciel qui était présenté au Diamant. J'ai vraiment adoré ce spectacle et je vous invite d'aller voir les autres spectacles de La Rotonde qui se passent dans les prochaines semaines sur leur site web La Rotonde Québec. Et voilà, on a écouté plein de nouveautés aussi. J'espère que vous les avez aimées tout autant que moi. On se retrouve demain à la même heure, 16h à 17h30, ici sur les ondes de Chiz 94.3. On va parler art visuel, on va parler littérature et on reçoit... on parle aussi d'audio ici à Chérie J'arrive. Alors voilà, chérie, je suis arrivée!